Malaise dans l'identité avec Hervé Lebras.
Merci pour cette invitation. Alors bien sûr, il faut entendre par identité, non pas l'identité individuelle dont je ne serais pas capable de parler, mais le thème qui est de plus en plus utilisé de ce qu'on appelle l'identité nationale, c'est-à-dire quelle est cette identité nationale. Et je me suis progressivement posé la question, comme beaucoup d'autres, puisqu'il y a une floraison d'ouvrages qui apparaissent sur ce thème. Vous avez vu que il y a un ouvrage qui s'appelle « L'identité malheureuse » d'Alain Finkielkraut. Vous avez vu que Alain Juppé a fait allusion et a cité « L'identité heureuse » au contraire. Vous avez un philosophe spécialiste des fonds des relations, ou plutôt de l'écart entre la culture chinoise et la culture européenne, qui a écrit, François Julien, qui a écrit « Il n'y a pas d'identité culturelle ». Vous avez un spécialiste de la politique, qui est Gilles Finkelstein, qui dirige la fondation Jean Jaurès, qui a écrit « Les pièges de l'identité ». Donc je pourrais continuer, mais c'est un thème qui remue pour l'instant à la fois le monde intellectuel et le monde politique. Donc j'étais amené à m'y intéresser. Vous avez vu à travers la liste de certains titres de livres que j'ai écrit, et puis aussi à cause du rapport entre identité et culture. Et il se trouve que, au fond, quand je travaillais sur ces questions, en même temps, j'avais repris un petit livre de Freud que vous avez sans doute lu, c'est le titre de ce livre en français, c'est « Malaise dans la culture ». C'est un petit livre très intéressant, c'est le moment où Freud, au fond, écrit en 1929 et publié en 1930, c'est un moment où Freud ne fait plus vraiment seulement de la psychanalyse au sens classique du terme, c'est-à-dire l'explication des névroses et des psychoses des individus, mais où il se lance dans quelque chose de beaucoup plus large, au fond, de qu'est-ce que signifie la société, notre existence, nos perspectives. C'est un très petit livre, mais très intéressant. Et Freud oppose, à partir du milieu du livre, Freud oppose deux pulsions, la pulsion de vie, qu'il appelle Eros, du nom grec, et puis la pulsion de mort, Thanatos. Et il dit, voilà, la pulsion de vie rassemble les hommes de plus en plus, et la pulsion de mort, Thanatos, en grec, les écarte les uns des autres. Et pour, au fond, marquer le lien entre ces deux pulsions, il emploie une formule qui est très intéressante. Il dit, au fond, la pulsion de mort se nourrit souvent du narcissisme des petites différences. Alors, qu'est-ce qu'il entend par cela, narcissisme des petites différences? Il entend l'idée que pour se sentir former une communauté, on va s'opposer à d'autres communautés. On va se définir comme étant différent d'autres groupes, et même très différent d'autres groupes. Alors, vous voyez que le mot « des petites différences » signifie qu'alors que les différences ne sont pas forcément très importantes. Et Freud a l'idée qu'au fond, pour compenser, pour surmonter ce narcissisme des petites différences, il faut tabler sur la culture. Mais se fonder sur la culture est quelque chose aussi qui est finalement pas très agréable. C'est d'où le titre « Malaise dans la culture », parce que ça suppose le contrôle d'un grand nombre de nos pulsions, donc le contrôle dans notre recherche du plaisir et même du bonheur. Mais pour lui, et pour beaucoup par la suite, la culture est justement le moyen de rassembler de plus en plus les hommes, malgré le fait que les hommes soient eux-mêmes individuellement soumis à ces deux pulsions, soumis à une pulsion fond d'amour et puis une pulsion de haine ou une pulsion de vie, et une pulsion de mort, ou plus exactement dans le cas individuelle, une pulsion d'agression. Et la culture est censée surmonter cette pulsion d'agression pour réunir de plus en plus d'humains en une communauté. Et quelque part, Freud retrouve un thème qui avait au fond été abordé sous sa forme la plus politique par un très grand philosophe qui est Kant, et qui avait, dans un petit essai de cosmopolitique qui est très lisible, hein, c'est du Kant vraiment que vraiment facile à lire, avait parlé de ce qu'il avait appelé l'insociable sociabilité de l'homme, c'est-à-dire le fait que les hommes, à la fois, dit-il, veulent, recherchent le contact de leurs semblables et le lien avec leurs semblables, ne serait-ce que d'ailleurs pour savoir qui ils sont, et en même temps veulent s'isoler pour être complètement libres. Donc il y a ces doubles pulsions chez les humains, et pour Kant, progressivement, la pulsion d'insociabilité devrait être surmontée. Et on est dans le Kant écrit ça avant le début du 19e siècle, et on devrait arriver progressivement à s'unir à des échelles de plus en plus grandes, les groupes, les clans, les ethnies, puis les nations, et puis, dit-il, l'humanité tout entière. Mais il dit que ça se fera aussi difficilement à travers des guerres et à travers des retours, justement, de l'insociabilité, donc ce qui est pour Freud la pulsion de mort. Du coup, je pense qu'il était intéressant d'analyser les questions d'identité à l'actuel à cette, avec cet arrière-fond, et notamment, d'où le titre de mon petit livre dont je dois parler aujourd'hui, qui est « Malaise dans l'identité », qui est comme le contrepoint du malaise dans la culture. Et au fond, Freud examine la difficulté de la culture de l'héros, de la culture elle-même. Et moi, je cherche à analyser la difficulté de la culture de mort, donc de l'identité, de la notion d'identité, donc particulièrement de cet aspect du narcissisme des petites différences qui amène les humains à se grouper dans des communautés pour s'opposer à d'autres communautés. Alors, comment faire ? J'ai décidé de procéder là très différemment des auteurs que j'ai cités, puisque je suis d'origine mathématicien, c'est-à-dire de dire comment peut-on définir d'abord cette identité. Et c'est là que je me suis aperçu que les différences commencent et sont très grandes. Pour me guider, deux auteurs, mais deux bornes extrêmes. J'ai pris comme point de départ, d'un côté, un très grand livre qui est le dernier livre écrit par Fernand Braudel, le grand historien. Et le livre s'appelle justement « L'identité de la France ». Donc il dit, je vais vous lire le passage où au début, c'est en trois tomes en plus. Donc on peut penser qu'on va savoir ce qu'est l'identité. Et voilà comment le passage dans l'introduction où il s'attaque au terme lui-même. Je vais juste vous lire le petit passage. Il dit « Alors, qu'entendre par identité de la France, sinon une sorte de superlatif, sinon une problématique centrale, sinon une prise en main de la France par elle-même, sinon le résultat vivant de ce que l'interminable passé a déposé patiemment par couches successives. En somme, un résidu, un amalgame, des additions, des mélanges, un processus, un combat contre soi-même destiné à se perpétuer. S'il s'interrompait, tout s'écroulerait. Une nation ne peut être qu'au prix de se chercher elle-même sans fin, de se transformer dans le sens de son évolution logique, de s'opposer à autrui sans défaillance, de s'identifier au meilleur, à l'essentiel de soi, conséquemment de se reconnaître au vu d'images de marque, de mots de passe, comme des initiés, que ceci soit une élite ou la masse entière du pays, ce qui n'est pas toujours le cas. » Je vous ai lu le passage en entier pour que vous en déduisez que vous ne saurez pas mieux ce qu'est l'identité à la suite de ce passage. Et c'est rempli de contradictions, je ne vais pas faire une explication de texte, mais enfin, il n'y a pas grand-chose à en tirer, sinon une volonté orientée sur le changement et sur le futur. Mais pour le reste, vous êtes bien en peine de me dire quelle est l'identité. Et Braudel lui-même était bien en peine de le faire, parce que une fois qu'il a eu fini avec cette introduction, grosso modo, dans les trois tomes, il ne parle plus du sujet. Il développe un certain nombre d'études sur des aspects particuliers. Je crois que puisqu'on est à Lyon, il y a un très beau passage sur l'évolution des soieries lyonnaises à l'époque classique, au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais ça, pour lui, c'est une partie. Au fond, c'est pas une partie de l'identité de la France, c'est une partie de la France. Il n'y a pas besoin du mot identité. Alors, vous voyez que vous avez ce côté-là, et paradoxalement, où l'historien est dans le mouvement, il est retourné vers le futur. Et pour autre, pour contrepoint, j'ai pris quelque chose de très particulier qui s'est produit à l'automne 2010. C'est quand le président Sarkozy a décidé de lancer un grand débat sur l'identité nationale. Vous devez vous souvenir de ce machin. Alors, ce débat était placé sous la direction des préfets et des sous-préfets. Ils devaient réunir la population pour discuter de l'identité nationale et expliquer de quoi ils retournaient. Et pour aider les préfets à faire leur travail, parce que d'habitude, si vous voulez, les préfets se préoccupent assez peu d'identité nationale. C'est quand même, ils n'ont pas été choisis pour cela. Mais en même temps, Sarkozy se défiait beaucoup des universitaires, des chercheurs. Ça allait compliquer les choses. Les préfets, c'était du sérieux. Alors, voilà la liste c'est des éléments de l'identité nationale qu'il s'agit de discuter. Alors là, je vais vous la lire aussi. Nos valeurs, à chaque fois, il y a un point d'interrogation. Nos valeurs, notre universalisme, notre histoire, notre patrimoine, notre langue, notre culture, notre territoire, nos paysages, notre agriculture, notre art culinaire, notre vin, notre art de vivre, notre architecture, nos églises et nos cathédrales, notre industrie, et puis enfin quand même nos hautes technologies, et puis ce que nous avons fait ensemble. C'est quand même une énumération assez bizarre, et je reviendrai peut-être sur quelques items, mais surtout, c'est une énumération qui est tournée vers le passé, donc c'est un paradoxe. L'historien s'est tourné vers l'avenir, et l'homme politique se tourne vers le passé, comme si l'identité était quelque chose de stable qui existait, alors que vous avez vu, l'historien pense que c'est en formation perpétuellement. Alors en même temps, c'est ce qu'on peut appeler une liste à la Prévert, c'est-à-dire il y a tout et rien. C'est par exemple, vous avez vu au tout début, il y a quand même une contradiction dans les termes « notre universalisme ». Ça voudrait donc dire qu'il y a plusieurs universalismes. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle universalisme s'il y a plusieurs universalismes ? Bon, pour le reste, vous remarquerez que même pour quelqu'un préoccupé des entreprises et de l'économie, il n'y a pratiquement rien. Et vous avez absolument, il y a une haute technologie. Et vous n'avez rien sur la démocratie. Vous n'avez rien sur quand même quelque chose qui, je crois, est au centre de la vie française actuellement et de questionnement français. Donc comment faire ? Vous voyez que j'ai là deux, pour poser le débat, j'ai deux bornes. J'ai Brodel d'un côté et la liste des préfets de l'autre. Mais comment l'attaquer, si je puis dire ? J'ai repris un très beau texte d'un autre historien, Ernest Renan, qui est un texte écrit à la fin du XIXe siècle et auquel on fait très souvent allusion, qui est un texte sur qu'est-ce que la nation. Et dans ce texte, Renan a cette phrase qui est très souvent citée quand on demande qu'est-ce que l'appartenance à la nation. Il écrit « L'existence d'une nation est, pardonnez-moi cette métaphore, un plébiscite de tous les jours comme l'existence d'un individu est une affirmation perpétuelle de vie. » C'est une très belle définition, c'est dire que c'est fait sur ce qu'on appelle la conception volontaire de la nation, c'est l'adhésion à la nation. Et pour discuter ce thème, Renan passe en revue ce qui, au contraire, il faut rejeter comme définition de la nation, donc comme identité de la nation. Donc il passe en revue, est-ce que c'est le territoire qui définit la France ? Ben, il dit non, les frontières, la plupart des frontières, à part quelques frontières montagneuses, sont artificielles. Quand vous êtes dans le nord de la France, entre la France et la Belgique, il n'y a pas de nécessité de cette frontière. Ensuite, il passe à la question, est-ce qu'il y a une race française ? Là aussi, il répond par un négatif. Est-ce que la France peut être définie par la religion ? Et c'était un historien des religions, professeur au Collège de France. Là aussi, Il dit non. Est-ce que c'est les mœurs qui définissent, comme on dirait maintenant, les comportements qui permettent de définir en français? Il dit non. Et plus loin encore, il s'interroge, est-ce que c'est la langue? Et là aussi, il dit non. Alors, je ne vais pas discuter point par point, il faut replacer à l'époque. L'un des buts quand même de Renan, c'était de récupérer l'Alsace-Lorraine d'une certaine manière. Donc, une des raisons pour lesquelles, par exemple, il dit que ce n'est pas la langue qui définit la France, c'est parce que Bismarck avait pris l'Alsace et un bout de la Lorraine en prétextant que c'est parce qu'on y parlait un dialecte une langue reliée à la langue allemande. Donc, il ne pouvait pas admettre la langue. Je serais plus mesuré peut-être tout à l'heure. Et du coup, en même temps, vous voyez que ça me fournit une liste de critères. Et dans mon petit livre, ben, j'ai passé en revue les critères de Renan, mais pour l'époque actuelle. Sur la question de la géographie, des frontières naturelles, c'est une question presque évidente. Et sur même la notion de frontière, je vous recommande l'excellent livre de Michel Fouché qui s'appelle « Front et frontières » qui montre qu'au fond, désormais, les frontières sont souvent extrêmement vastes parce qu'elles ne peuvent plus être définies par une ligne comme ça a encore été le cas dans les nations au XIXe siècle. Ça dépend du type d'attitude, d'action qu'on entreprend. Mais je laisse ça de côté. La race, voilà une question qui est plus importante et plus actuelle, puisque vous vous souvenez, vous avez sans doute vu, qui est une partie, une faible partie, mais il y a une petite partie de l'opinion qui craint le grand remplacement. Sous-entendu, les Français sont envahis par les étrangers. Alors, c'est pas faux. D'une certaine manière, si on se limite à cela, puisque chaque année, actuellement, quand vous regardez sur le site de l'INSEE ou les publications de l'INSEE, chaque année, vous avez en solde, c'est-à-dire la différence de ceux qui entrent moins ceux qui sortent, à peu près 140 000 étrangers qui... Il y en a plus qui entrent, mais aussi un certain nombre qui repartent. Et puis, vous avez, si vous regardez le solde des Français, 90 000 Français de pertes chaque année en moyenne. Quand je dis Français, c'est des Français nés en France. Donc, vous avez une sorte de circulation. Et à ce moment-là, d'où la crainte exprimée du grand remplacement. Mais si on regarde de plus près ce qui se passe, le grand remplacement supposerait qu'il y ait deux entités irrévocablement différentes, justement, et ça nous ramène au narcissisme des petites différences, les étrangers qui resteraient toujours étrangers et les Français, même, et au fond, qui resteraient toujours étrangers, même s'ils sont naturalisés, ce qui est là une contradiction avec l'esprit de la République. Or, ce qui se passe quand on regarde d'autres données de l'INSEE, j'en ai publié aussi, j'en ai repris et discuté un certain nombre, ce n'est pas justement l'existence de deux groupes différents, c'est qu'il y a une très grande mixité, une grande partie des étrangers devenus français ou étrangers encore se marient à des Français ou des Françaises. Les unions mixtes sont en très rapide augmentation. Quand vous regardez la statistique des naissances de l'INSEE, l'INSEE les a classés selon que les parents et les grands-parents sont immigrés ou non immigrés. Vous avez 10% des naissances l'année dernière qui sont les naissances de deux parents immigrés et les grands-parents aussi, forcément, en général, étrangers. Donc, et puis, vous avez 60% des naissances qui sont des naissances où vous avez aucun immigré ni dans les parents ni dans les grands-parents. Mais 10 pour 60, ça fait 70. Vous avez 30% des naissances où au moins un parent ou un grand-parent est immigré d'origine. Donc, de plus en plus, la France n'est pas seule dans ce cas. Même les États-Unis, malgré M. Trump, voient les unions mixtes augmenter relativement vite. Elles partent d'un niveau beaucoup plus bas qu'en France, mais elles augmentent, y compris entre la population dite noire aux États-Unis et la population dite blanche. Donc, le problème, si vous voulez, il n'y a pas de grand remplacement. Ce vers quoi on est en train d'aller, c'est vers une population, au fond, de plus en plus mélangée quant à ses origines. J'avais fait un petit calcul dans un de mes livres. Si l'immigration continue à ce rythme actuel, qui n'est pas très fort, comme vous l'avez vu, à ce moment-là, arriver dans une génération, à peu près 50% des Français auront au moins un parent ou un grand-parent d'origine immigrée. Mais c'est là que la question de la race est posée. On croit souvent que la race, c'est seulement l'affirmation de la supériorité d'un groupe humain sur un autre. La race, dans les grands auteurs racistes, et j'en commande quelques-uns dans mon bouquin, c'est surtout la pureté de la race. Il ne faut pas que la race se mélange. Quand vous prenez quelqu'un comme le grand fondateur du racisme moderne, si on peut dire, en France, qui est Arthur de Gobineau, dans son grand livre sur les inégalités, l'essai sur les inégalités, vous avez, c'est une longue plainte contre le fait que ces soi-disant Aryens, R-Y, ont été pris par la luxure, se sont mélangés avec d'autres populations et ont perdu leur qualité si formidable qu'ils avaient quand ils vivaient dans les plateaux de l'Himalaya. Bien sûr, y a un aspect assez délirant, mais il y a un aspect aussi assez remarquable qui est cette peur de la mixité et que vous retrouvez et qu'au fond exprime le grand remplacement. Donc clairement, sur ce point-là, on peut pas dire qu'il n'y a aucun moyen de définir biologiquement une population française. Et j'en donne aussi d'autres éléments plus factuels. Par exemple, les grands travaux du biologiste Luca Cavalli-Sforza, qui a étudié la répartition des groupes sanguins et des groupes particuliers, notamment ce qu'on appelle HLA, de compatibilité des greffes, dans l'ensemble pratiquement dans l'ensemble du monde maintenant, mais surtout dans l'ensemble de l'Europe et de l'Afrique, et où le mélange est extrêmement grand. Vous ne pouvez trouver aucune délimitation précise qu'on puisse assimiler à un groupe humain particulier. Vous avez certains gènes qui sont plus fréquents que d'autres à tel et tel endroit, et il y a une des explications à ce point-là, mais vous n'avez pas de séparation qui soit forte, nette, et en plus de cela, même quand vous voyez des espaces un peu où certains gènes sont plus fréquents que d'autres, ils ne correspondent pas aux entités nationales actuelles. Donc là, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. En fait, paradoxalement, déjà, anthropologues nazis, par exemple Hans Günther, qui était un des grands anthropologues nazis, s'était mis à faire des cartes des yeux bleus, des cartes des cheveux blonds, des cartes de la forme des crânes et tout, en Europe, très fines, on peut encore les trouver dans le commerce, et ils se sont aperçus que ça marchait pas, il y avait aucun des critères qui ne recouvrait un autre critère, ils étaient assez embarrassés. Du coup, vous savez que ça a mené à ce qu'on a appelé les Lebensborn, c'est-à-dire à la fin du régime nazi, les Hitlériens ont kidnappé ou fait engendrer des enfants par des enfants qui avaient les yeux bleus, les cheveux blonds et qui avaient une grande taille, de façon à constituer cette race, puisqu'ils ne la trouvaient pas sur place. D'ailleurs, souvenez-vous, Hitler était plutôt petit, il avait les yeux bruns et les cheveux noirs, hein, donc déjà ça marchait pas sur le chef. Donc là-dedans, pas de race. Alors, deuxième point, la religion. Faut pas que je prenne trop de temps, mais vous voyez l'idée. La religion, c'est l'argument des racines chrétiennes de la France. Est-ce qu'on a des racines chrétiennes ? Il y a des chrétiens, la religion catholique, oui, elle a existé en France, mais il y a beaucoup de choses qui existaient en France, les rois fainéants, les mérovingiens, on peut aller... C'est pas par ça qu'on est défini par ce passé. Alors, est-ce qu'actuellement, la religion chrétienne nous définit ? Je ne crois pas. Quand j'ai fait une étude, le petit livre n'a pas été cité, mais c'était une mise au point importante sur un échantillon de plus de 50 000 personnes. Quel est l'état de la religion, des religions en France? On a repris toutes les enquêtes de l'IFOP de 2012 qui posaient la même question sur les religions. C'est des petites enquêtes de 1500 personnes, mais comme il y a la même question, on les met toutes ensemble. On avait la commune de résidence des enquêtés, leur âge, etc. Donc on a pu faire un bilan. Le bilan est le suivant, il est publié, c'est qu'actuellement en France, la pratique religieuse régulière des catholiques représente 12,5% de la population. Et quand on descend dans les âges, c'est 6,5 de la population pour les âges de 18 à 30 ans. Et ça monte simplement après 65 ans, autour de 30%. Donc, c'est plus du tout une donnée générale, la pratique religieuse en France. Est-ce que ça a inspiré nos mœurs, etc. ? Est-ce que c'est en accord avec nos mœurs ? Il faut bien reconnaître que la doctrine catholique, et la doctrine d'autres religions d'ailleurs, n'est pas en accord avec... avec nos mœurs, l'interdiction du divorce, de la contraception, le fait que seuls les hommes peuvent exercer la prêtrise, enfin j'en passe et des meilleurs, c'est quand même pas du tout dans nos mœurs actuelles. Donc on ne peut pas non plus dire de ce point de vue-là que ça caractérise actuellement notre identité. Et puis historiquement, non, historiquement l'Église a, sauf une petite période, ce qu'on appelle le thomisme au Moyen-Âge, où elle a recueilli l'héritage d'Aristote, sauf cette période-là, l'Église a plutôt été un frein, et particulièrement un frein à la science. D'ailleurs, elle s'est installée dans l'Empire romain en détruisant la science antique, et heureusement qu'il y a eu quelques Arabes qui ont gardé les manuscrits d'Aristote, de Platon, de Plotin, et qu'on a pu récupérer à partir de la Renaissance, mais dans l'ensemble, il y a eu destruction de la science antique. C'est un constat. Et même pour la science moderne, vous savez qu'il a fallu attendre 10 ans, il y a une dizaine d'années, je ne sais plus quel pape, pour qu'ils reconnaissent que Galilée avait peut-être raison, que peut-être que la Terre tournait autour du Soleil. Donc on ne va pas me raconter les racines chrétiennes, il y a une histoire chrétienne derrière, dans notre passé, mais les racines, non. Nos racines, et ça j'insiste dans le livre, nos racines, elles sont gréco-latines. C'est-à-dire, si on veut comprendre notre vie d'aujourd'hui, c'est guidé par ce qui a été, par le miracle grec du 5e siècle avant Jésus-Christ et par ce qui s'est fait dans Rome, de la République à l'Empire. Pourquoi ? Ben, quand vous faites de la politique est inventée dans sa forme actuelle par les Grecs, y compris la démocratie. Quand vous faites des mathématiques, les mathématiques sont inventées par les Grecs. Quand vous faites de la philosophie, on peut qualifier de philosophie des textes plus anciens, mais la philosophie en tant que discipline se reconnaissant comme telle date des Grecs, ça fait quand même pas mal. Et pour les Romains, ben les Romains, les lois, l'état de droit, l'administration, la construction des infrastructures, les ponts, c'est très différent, mais disons, nous avons hérité, particulièrement dans le domaine, dans notre conception du droit, de l'Empire romain. Donc, si on veut revendiquer des racines, nos racines, si vraiment on veut définir une identité, elles sont gréco-latines. Bon, je ne vais peut-être pas parler beaucoup plus longtemps, mais vous voyez l'idée, c'est de passer en revue. Donc, le point suivant que j'ai passé en revue dans ma livre, mais là, vous serez d'accord avec moi, c'est les mœurs. Est-ce qu'on peut caractériser des mœurs françaises ? Et il se trouve que depuis longtemps, soit seul, soit avec mon collègue Emmanuel Todd, on a publié des livres et surtout des cartes qui montrent la très grande différence de comportement en France et qui cherchent à comprendre ces différences de comportement à la lueur de notre histoire. C'est des différences de comportement qui touchent aussi bien à la famille qu'à l'alimentation, y compris d'ailleurs aux questions politiques. Donc là, il y a une très très grande variété et qui plus est, cette variété, quelquefois, déborde nos frontières, mais quelquefois est intérieure à nos frontières. Je prends par exemple, et on est ici dans un lieu où ça peut être vérifié, je prends l'exemple des plats régionaux. Vous avez, une grande partie de la cuisine qui était évoquée dans les instructions au préfet, qui est une cuisine régionale. Quand j'arrive dans un restaurant ou dans une brasserie à Lille, je comprends pas la moitié du menu. Et si vous entrez un peu la même chose, en dehors des fruits de mer en Bretagne, il y a beaucoup de termes qui vous échapperont dans le midi, etc. Il y a, même à Lyon, après tout, dans les bouchons lyonnais, un Parisien reconnaît pas complètement tout ce qu'il peut commander. Donc là, on peut pas non plus parler d'une unité des mœurs. La langue. La réponse, vous l'avez vu, était forte de Renan pour la raison que j'ai dite, mais aussi parce que à l'époque, ça va peut-être vous étonner, mais on a des très bons travaux sur le sujet, près de la moitié des Français ne parlaient pas le français comme langue usuelle, comme chez eux, si vous voulez. Ils avaient ils parlaient un patois ou ils parlaient une langue très différente, le breton ou le basque ou même le catalan, l'occitan. Ils utilisaient le français depuis un édit très célèbre de Villers-Cotterêts, en 1517, je crois. Ils l'utilisaient pour les rapports avec l'administration ou avec l'extérieur. Mais il n'y avait aucune injonction à parler français. D'ailleurs, dans la Constitution, on a introduit, dans la Constitution française, la nécessité du français n'a été introduite que très récemment. Il me semble que c'est j'ai plus la date, enfin j'ai la date exacte dans mon livre, mais je crois que c'est en 1998. Puis ensuite, il y a une loi, la loi Toubon. Donc c'est très très récent. Donc définir la France par sa langue, non. La France est définie par son État très largement. Un pays qui est défini par sa langue, c'est par exemple l'Allemagne. Et pour comprendre, même y compris le problème des réfugiés actuels en Allemagne, il faut bien savoir que ce qui fait l'allemand, c'est la langue allemande. Et c'est d'ailleurs, je vous l'ai dit, pour ça que Bismarck avait revendiqué et pris l'Alsace-Lorraine. Donc la langue est la langue, simplement la langue, là où je diverge un peu de Renan, c'est qu'elle est devenue universelle en France. Les langues régionales sont maintenant tout à fait minoritaires, et en général même c'est du bilinguisme, sauf pour quelques très vieilles gens. Et de ce point de vue là la langue étant un outil de communication, c'est tout à fait important de la mettre au cœur d'une définition de notre pays. Mais en même temps, cette langue est parlée par des Belges, par des Suisses, par des Canadiens et par près de 300 millions d'Africains, en principe. Donc, là non plus, ça ne permet pas de définir une identité française. J'ai aussi un chapitre sur est-ce qu'on peut avoir un récit national ou un roman national, comme on l'entend souvent dire. Ben non, c'est pas possible. Et là aussi, je pourrais vous citer, déjà Renan l'avait bien senti et l'avait bien dit. Donc voilà, et après, mon livre est plus positif, il montre que la culture, et surtout la culture, en ce sens, et on revient à Freud, qu'elle est quelque chose qui est nécessairement ouvert sur les autres, quelque chose qui, alors là, ne peut absolument pas se définir pour un groupe avec des frontières fixes, quelque chose pour lequel on peut avoir deux cultures sans problème non plus, et ainsi de suite, et peut-être le moyen de sortir de cet isolation même tente d'établir cette notion d'identité qui, vous le voyez, n'est fondée sur rien que sur de dire les autres sont différents de nous. Je prends un petit exemple. Quand vous êtes je prends l'exemple d'un Suisse et il rencontre au Pérou un autre Suisse. Il se sent Suisse, là il n'y a aucun problème. Mais le même Suisse, il rencontre sur les bords du lac de Genève, il est banquier suisse. Il rencontre un ouvrier du bâtiment en Suisse. Ils ne sont pas du tout du même pays, là. Hein, c'est plus là, il n'est plus question de fraterniser. Donc là aussi, c'est des questions de situation. Ce n'est pas des questions d'état. On ne peut pas définir de cette manière une identité. Il me resterait, mais peut-être la discussion va ouvrir là-dessus, c'est pourquoi, dans ces conditions-là, sommes-nous à ce point-là tournés dans les discussions politiques actuelles sur l'identité? Pourquoi a-t-elle fait irruption dans le débat politique à ce point-là? Je pense qu'il y a plusieurs causes, mais c'est difficile à les démêler. L'une d'entre elles est sans doute l'insatisfaction vis-à-vis du progrès scientifique. Et Freud y fait allusion, il dit au fond, on a fait des progrès, on est en 1930, formidable, il dit déjà on est devenu des sortes de dieux du point de vue technique, on a fait mieux depuis d'ailleurs, mais ça ne nous a pas apporté le bonheur, ça n'a pas beaucoup changé. Et c'est vrai, quand on voit maintenant, vous savez qu'il y a une économie du bonheur, quand on voit le niveau de bonheur par pays, il augmente des pays les plus pauvres, mais jusqu'à, disons, un revenu de 5 000 euros par habitant. Et puis ensuite, il est pratiquement stable, il n'y a plus d'augmentation. Donc il y a là-dedans une déception par rapport à ce qu'on pourrait dire étaient les promesses du progrès. Le progrès n'a pas rendu l'humanité plus heureuse, Freud le dit déjà. Je pense qu'il y a un autre point important. Si cette identité arrive, c'est parce qu'il y a un affaiblissement de l'État. Pendant très longtemps, la France s'est comprise et vue comme un État-nation. Mais un État-nation, ça veut dire que l'État est fort. Or, comme vous l'avez vu, l'État, pour des raisons diverses, perd une à une ses fonctions. Un certain nombre d'inégalités de ce fait-là augmentent parce que l'État est le grand moyen d'empêcher que les inégalités soient trop fortes. C'est déjà, même si on ne peut pas vraiment parler d'État grec, mais c'est déjà vrai dans la Grèce ancienne, la question de la répartition des richesses. Donc je pense que là aussi, il y a un problème. Et du coup, il y a ce retour de l'identité. Et juste pour terminer, Freud, à la fin de son livre, note que la culture est associée à un sentiment, vous créez chez vous un sentiment de culpabilité, parce que comme on ne peut pas réaliser toutes ces pulsions, on a un surmoi qui vous ordonne de ne pas les réaliser, et un surmoi qui vous donne au fond une culpabilité par rapport à beaucoup de vos actions, parce que vous voulez les réaliser et vous n'arrivez pas parce qu'il y a la contrainte des autres par ne pas empiéter sur la liberté d'autrui. Et je me dis, au fond, il y a un parallèle à faire avec la politique actuelle, cette montée vers l'identité, donc cette diminution de la culture. D'ailleurs, la culture est attaquée par plusieurs partis extrémistes. Eh bien, dans cet esprit-là, l'identité s'oppose bien à la culture actuellement, et le principe de culpabilité aussi. Ceux qui s'opposent à la culture, justement, ne sont plus à ce point-là pris par ce principe ou par ce sentiment de culpabilité. Et comme vous l'avez vu, à ce moment-là, la justice peut raconter ce qu'elle veut. Ils se sentent absolument libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, il y a, de ce point de vue-là, un retour en arrière. Et je vous conseille peut-être encore plus que mon livre, celui de Freud, parce que c'était un grand bonhomme, même si ne croyez pas que je sois inféodé à la plupart des théories psychanalytiques qui ont été une époque dans notre histoire intellectuelle, mais finalement, ça a amené Freud à réfléchir plus largement et de façon extrêmement intéressante. Il y a aussi le très beau petit livre sur l'avenir d'une illusion où il se demande qu'est-ce que la religion, et de façon vraiment tout à fait sérieuse. Merci, je suis ouvert à vos questions, merci. Vos critiques.
Alors, j'ai une question, mais je vais essayer de la resituer un petit peu. Au début du XXe siècle, on a Victor Delablache qui reçoit une commande un peu politique où on lui dit il faudrait construire une personnalité française, abolir les régionalismes, etc. Derrière, on a... Alors, je suis un peu anthropologue, donc c'est pour ça que je m'oriente un peu sur ces débats-là. Derrière, on a Frédéric Barthes qui va nous dire que les frontières, finalement, font toujours partie de la manière dont on va essayer de se définir et que tous les groupes à petite échelle le font. Et puis plus tard, on a Bénédicte Anderson qui va nous dire on imagine des communautés, on les crée un peu parfois de toutes pièces, en tout cas dans des cadres nationaux. Et du coup, je me posais la question de savoir si, mais vous en avez déjà parlé un petit peu, s'il n'y avait pas une réelle manipulation politique actuellement vis-à-vis de la notion d'identité qui peut servir différentes fins, mais moi, j'arrive pas à comprendre quelle fin. Et je me posais aussi la question, j'avais entendu une fois Boris Cyrulnik parler de la question de l'identité, et il disait on a l'impression de se retrouver en Allemagne nazie quand il y avait des problèmes économiques et que la seule manière de justifier une prise de pouvoir nationaliste, c'était l'identité, la crispation sur l'identité. Alors, je suis pas très sûr de bien me faire comprendre, mais voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Oui, si vous voulez, il y a eu un âge d'or des nations. Cet âge d'or, c'est effectivement la fin du 19e siècle. Mais si vous voulez, la France s'est constituée comme État, non pas, le livre de Renan le montre bien, non pas à partir de caractéristiques de ses habitants. Elle s'est constituée comme État à partir de deux choses, l'adhésion de la population à l'État et l'État lui-même, qui est la France se forme, et c'est très bien montré dans le livre de Brodel, à partir, et dans d'autres livres que celui que j'ai cité, à partir de la royauté absolue, donc à partir de Louis XIV en 1661, qui va agréger des régions, des provinces, on dirait maintenant, très distinctes, au point que même encore à la Révolution, vous avez des frontières intérieures en France. Il ne faut pas croire qu'il y avait des frontières de la France. Il y a, par exemple, tout ce qui venait... Il y avait encore une partie de l'Est de la France qui faisait partie de l'Empire romain germanique, l'Alsace, la Lorraine, la Franche-Comté. Et c'était des provinces, elles étaient qualifiées de provinces étrangères. Et on avait des douanes pour passer dans ces provinces. Et même les provinces du Nord qui avaient été acquises plus tôt, la Flandre notamment par Louis XIV, étaient nommées provinces réputées étrangères. Alors il n'y avait pas partout, les douanes étaient plus souples, c'était pas partout. Mais donc, si vous voulez, la France s'est constituée comme un État, beaucoup plus fortement même que d'autres pays. Et ce modèle a tenté, au fond, a été en partie suivi, quoique, après tout, à la Révolution, cette notion d'État, l'État s'est renforcé, mais la notion de quel était l'espace qui appartenait à cet État, comme vous le savez, a en partie disparu. Au début de la Révolution aussi, il y avait une tendance universaliste, et notamment de convertir l'ensemble des peuples, qui a abouti malheureusement à sa diversion par Napoléon. Mais de ce point de vue-là, il y a eu un peu de dissociation par rapport au travail de la monarchie. Mais la France est restée profondément un pays défini par son État. Alors, comme je l'ai dit, un pays comme l'Allemagne est vraiment défini par la langue allemande, et j'ai fait allusion aux réfugiés. La première chose que font les Allemands avec les réfugiés, c'est de leur apprendre l'allemand, et de façon absolument intensive. Et les Allemands ne sont pas les seuls. Paradoxalement, les Japonais ont une conception analogue. Vous savez que les Japonais ont commis des atrocités dans les années 30, en prenant la Mandchourie, à Nankin, la Corée. Eh bien, arrivé en Corée, notamment, les Japonais avaient détruit entièrement tout ce qui était coréen. On n'avait plus le droit de parler coréen. Il fallait parler japonais dès la petite enfance. Il fallait devenir japonais de cette manière. C'est paradoxal, parce qu'on dit souvent les Japonais sont totalement hostiles aux autres. Non, leur définition d'être japonais, dans ce cas-là, c'est parler. Avoir été éduqué, avoir comme langue maternelle le japonais. Les Français n'ont pas du tout une définition de ce genre-là. Alors maintenant, dans quelle mesure il y a une réalité? Vous avez parlé des communautés au sens anthropologique du terme. Quand on arrive à des communautés de la taille de pays comme les États, on ne peut plus raisonner de la même manière que quand on traite de certaines ethnies dans la forêt amazonienne qui compte 500 ou 2000 ou 10 000 habitants. Là, il n'y a plus du tout la même, proximité entre les personnes qui appartiennent à ces groupes et les personnes qui appartiennent à un État. Et ça a amené un anthropologue que vous connaissez, Benedict Anderson, à faire un très beau livre dont le titre anglais, c'est « Imagined Nations ». Ça a été bêtement traduit par « l'imaginaire national ». Mais ce n'est pas du tout l'imaginaire, c'est les nations, comment elles ont été imaginées. Et Anderson montre par quel procédé les nations se sont constituées au XIXe siècle. Particulièrement, il a été très très attentif à la manière dont les nations d'Amérique du Sud se sont constituées, parce que c'est vrai que c'est un peu étrange. Pour nous, l'Amérique du Sud apparaissait comme une zone assez vaste, contrôlée par l'Espagne. Mais ça a formé des nations qui sont maintenant très bien constituées. Quand vous passez du Chili à la Bolivie ou à l'Argentine, les nations sont bien ressenties comme différentes. Et même actuellement, cette différence est au point que les Chiliens s'inquiètent de leur invasion par des Péruviens et des Boliviens. Donc ça a quelque part marché. Benedict Anderson montre que ça a marché à travers des institutions comme la naissance d'une presse nationale au profit de groupes de bourgeoisie moyenne, l'interdiction pour ces groupes sous la colonie espagnole de rester étudier en Espagne, l'obligation de revenir dans leur point d'origine. Un certain nombre de dispositifs ont amené à ce que ces nations soient créées, mais absolument pas des caractéristiques de la Bolivie ou de la Colombie ou de l'Argentine. Donc c'est un très bon exemple. Quant à la question sur l'économie et tout, là je sens moins le... oui, c'est une autre... C'est une autre histoire. Renan évoque la question économique, mais pour la rejeter très rapidement, ça ne définit pas une nation. C'est contraire tout à fait à l'économie. Là où cependant vous avez raison, c'est il entre dans l'attitude actuelle de ceux qui défendent l'identité française sous ce terme-là. Moi, je défends la France. Il n'y a pas besoin de dire l'identité française. Hein. C'est autre chose qui est dit par ça, où je défends la nation France, où je défends l'État-nation France. L'identité ne sert à rien. Donc, à quoi sert-elle, vraiment? Et c'est un peu ce que j'ai cherché de montrer dans ma conférence. Et notamment, elle sert parce qu'elle permet le narcissisme des petites différences. Et vous remarquerez que ceux qui invoquent l'identité française sont presque toujours ceux qui disent du mal de l'Allemagne, qui disent, voilà, l'Allemagne cherche à dominer l'Europe, elle a retrouvé son comportement agressif. Alors, ça a particulièrement fleuri pendant la crise grecque. Or, de ce point de vue-là, d'ailleurs, la crise des réfugiés a montré que, bon, fallait regarder à deux fois avant de critiquer l'Allemagne. Bon, l'Allemagne est critiquable, l'Angleterre est critiquable, les États-Unis particulièrement maintenant, bien sûr. Mais là, il y a eu une sorte d'opposition montée en épingle contre l'Allemagne de la part de certains auteurs, et particulièrement d'auteurs économiques. Hein, je prends l'exemple de Jacques Sapir, qui est absolument caractéristique. C'est de là que l'Allemagne vient, l'Europe c'est un marque déguisée, et ainsi de suite.
Oui, bonjour monsieur. Je me posais la question du rôle des technologies modernes de communication sur l'identité. Est-ce qu'à votre avis, elles renforcent ou elles diluent les identités?
Très très bonne remarque, très bonne question, parce que ça ouvre, je pense, à une question qui est absolument problématique, je dirais peut-être moins sur la question de l'identité que sur la question du fonctionnement général de nos démocraties. Et au fond, dans un premier temps, on s'est félicité de voir apparaître beaucoup de chaînes de télévision. On a dit, c'est formidable, on peut se renseigner de différentes manières. On a pu la voix unique de l'ORTF, si vous voulez. Donc, c'est bien, la démocratie, c'est le pluralisme. Et puis, on s'aperçoit que ça enferme chacun, et particulièrement aux États-Unis, vous avez ceux qui regardent Fox News et puis ceux qui regardent CNN ou bien ABS, et c'est devenu deux mondes séparés. Et l'idée que défend, enfin l'idée c'est un grand mot, la notion de fake news que répand actuellement Trump va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il tient compte du fait que désormais, ça y est, c'est des mondes qui ont été, et au fond, ils ont été séparés par la richesse de l'offre, ce qui est un paradoxe. Et de la même manière, je pense, et beaucoup commencent à le penser, que Facebook, mais même Google, de ce point de vue-là, alors que ça a l'air d'ouvrir absolument à l'humanité entière, au contraire, de la manière dont ils fonctionnent, et même, donc, comme on dit, les fameux algorithmes sont conçus, referment les individus sur des communautés de plus en plus petites au sein desquelles les pires rumeurs peuvent circuler et acquérir une sorte de semblant de vérité. Vous remarquerez, c'est évident pour Facebook, on converse avec des gens qui sont vos amis en principe, donc qui sont à peu près des mêmes opinions, qui ont à peu près la même opinion que vous. Même pour Google, quand vous tapez sur Google, si vous l'avez beaucoup utilisé, Google vous fournit des réponses qui sont ajustées, vous donne des listes, mais c'est ajusté à l'ensemble de vos requêtes précédentes. Il y a un algorithme, donc ça vous enferme dans votre... vous pourrez faire l'essai, par exemple même l'essai de quelquefois... Quand vous cherchez à accéder à un texte dans une autre langue que le français, bien que en principe ça soit possible, ça vous renverra tout de suite sur une traduction française. C'est-à-dire, donc vous ne pouvez même plus accéder à la langue originale. Donc de ce point de vue-là, ce qui est un paradoxe, l'extraordinaire volume d'informations maintenant disponibles, accessibles très rapidement pour un chercheur. Il y a des aspects, Google a des aspects aussi tout à fait intéressants, mais même, j'ai plusieurs fois fait allusion au site de l'INSEE, vous allez maintenant sur le site de l'INSEE, vous avez une masse de renseignements absolument formidables sur notre pays qu'on n'avait pas il y a 15 ou 20 ans, puis vous pouvez les traiter, vous importer des tableaux Excel, vous pouvez vous-même vous faire une idée, mais c'est très peu pratiqué, les gens sont de plus en plus enfermés au contraire dans leur petit monde. Et je trouve de ce point de vue-là aussi, bien qu'il y ait d'autres raisons, mais le fait que Trump s'adresse aux gens avec des tweets est caractéristique de cette limitation extrême de l'information, alors qu'on a tous les moyens, au contraire, d'avoir une information qui soit très, très large. Donc, quelque part, je ne dirais pas du tout que cette multiplicité de l'information aide ou nuit à l'identité. Je dirais plutôt que, et ça ramènera à une question précédente, elle nous amène à à une sorte de communautarisme, qui n'est, à ce que des petits groupes se mettent à penser d'une certaine manière et n'aient plus communication avec les autres groupes. C'est aussi pour ça que j'ai défendu, contrairement à Renan, la langue comme outil de communication. Comme, le pluralisme, ça veut dire être en contact avec des gens qui ne sont pas de votre avis. Ce n'est pas du tout être au milieu des gens qui partagent votre avis et qui crient en chœur dans les réunions « chez nous », ça ne m'intéresse absolument pas.
Oui, vous venez de parler des bulles filtrantes qui ont cet avantage, c'est qu'on est entre soi, c'est plus confortable. Dans un monde qui est complexe, qui est chaotique, notre société va pas très bien. Et tout à l'heure, vous avez posé la question, pourquoi dans le débat politique sommes-nous tournés vers l'identité? Alors, j'ai une petite idée que je vous soumets. L'identité, pour moi, est un terme très, très dangereux parce qu'il tombe sous le sens. Identité, ça veut dire un. C'est ce qui est reconnaissable, comme ma carte d'identité. Or, l'identité, de fait, n'est pas unique, elle est multiple. Donc, est-ce que ce n'est pas là, justement, quelque chose qui rassure à notre époque et qui permet de détourner l'attention? Les politiques parlent de l'identité. Vous savez qui nous sommes, nous ne portons pas de burkini, c'est évident entre nous. Or, ça permet de détourner l'attention sur des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus difficiles à résoudre, qui sont, par exemple, le problème du capitalisme financier, du rôle des banques, le marché. Donc, est-ce que l'identité, c'est pas une sorte de bouche-trou pour nous faciliter la vie, pour nous rassurer, nous euphoriser?
Oui, non, vous avez raison, mais dans une certaine direction, que j'ai cherché à souligner dès le début, dans la direction du narcissisme des petites différences, dans la direction de nous séparer des autres. Donc, quelque part, en ce sens-là, elle est une notion anticulturelle, la culture cherchant à nous rapprocher les uns des autres. Donc, de ce point de vue-là, c'est plus grave qu'un simple leurre ou un simple paravent qu'on met pour masquer des problèmes importants de l'époque. Ça l'est aussi, vous avez tout à fait raison. Mais il y a un côté, je crois, plus pernicieux. Et ce côté pernicieux, je l'ai évoqué à propos du sentiment de culpabilité qui disparaît une fois. Tout devient possible au nom de l'identité. C'est notre identité, donc on a le droit, voilà, de faire. Elle est donc, quelque part, elle a des aspects antisociaux. Et aussi, là où vous avez raison, c'est de souligner, mais c'est aussi le but de mon livre, que c'est un terme vague, et le vague lui profite. Et dans mon livre, j'ai donné juste une petite citation c'est un très bon livre aussi, facile à lire, d'un Américain, Albert Hirschman, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les intérêts et les passions ». Et c'est penché sur justement la manière dont les philosophes avaient au XVIIIe siècle et au début du XIXe traité de ces deux questions. Et on voit effectivement face aux passions, si vous voulez, jusqu'au XVIIIe siècle, les passions sont un objet d'étude philosophique important. On voit, il y a un traité des passions, Descartes s'en occupe, Pascal s'en occupe, vous avez Hobbes dans le Léviathan, s'occupe énormément de la nature des passions. Et la thèse jusqu'au fond au XVIIIe siècle est que les passions s'opposent aux passions, que pour s'opposer à une passion, il faut susciter une autre passion. C'est pas une thèse si fausse non plus, d'un point de vue, je dirais, de militantisme politique. C'est très difficile, comme on le fait, d'opposer la raison aux passions. La raison a guère de prise sur les passions, malheureusement. Donc, il s'agit de trouver des passions contraires qui attaquent les passions que l'on veut limiter. Mais ce que montre Hirschman, c'est s'impose au XVIIIe siècle. La notion, c'est l'intérêt qui va s'opposer, qui va remplacer les passions. Donc, vous voyez, c'est aussi la naissance de l'économie politique. C'est d'ailleurs au sein de... Adam Smith n'est pas un économiste, comme on le dit souvent. C'est un philosophe. Hein. Et il va faire, à côté de La richesse des nations, un traité du sentiment moral. Donc, il est ce qu'on appelle la philosophie écossaise de l'époque, qui est très en avance. Et Hirschman note, pour arriver au point que vous soulevez, cette phrase que j'ai reprise, parce que ce petit passage... à propos du mot intérêt et de son apparition, il dit « Comme c'est souvent le cas pour les concepts que l'on pousse d'un coup au milieu de la scène, tels que la classe, l'élite ou la croissance économique, pour ne citer que des exemples de ces derniers temps, la notion d'intérêt paraît à sa naissance si claire et si distincte que personne ne se souciera de la définir avec précision. Personne non plus ne cherchera à expliquer comment situer l'intérêt par rapport aux deux catégories fondamentales qui déterminaient depuis Platon l'analyse du comportement des hommes, c'est-à-dire d'une part les appétits ou passions et de l'autre part la raison. Vous voyez que je pourrais mettre, si je remplaçais intérêt par identité et si je remplaçais appétit ou passion par nation et raison par état, je serais, et la phrase pourrait être reprise exactement. Donc, vous voyez, c'est en ce sens-là, et ça c'est le second point sur le mot intérêt, que c'est le mot identité, que c'est un mot extrêmement dangereux parce qu'il a cette apparence d'évidence, comme le dit Albert Hirschman.
Oui, bonjour, Geneviève Ancel, des Dialogues en Humanité. En fait, je voulais juste vous partager quelque chose qui va rebondir par rapport à ce que vous dites. Il y a 2 ans, j'ai été sortie de ma zone de confort au fin fond du Brésil, où il y avait des dialogues qui se passaient dans une ferme bio de cacao de très grande taille. Et c'est un Français qui vit là-bas depuis 35 ans qui me dit « Vous savez pas la chance que vous avez en France ?» d'avoir un État et d'avoir l'ENA. Alors moi, j'ai passé ma vie plutôt comme autogestionnaire et comme chantre de la décentralisation, en bonne alsacienne d'ailleurs, et de casser les frontières. Enfin bref, donc j'étais quand même très ébranlée par ça. En même temps, ça me renvoyait aussi à des discussions que nous avons eues avec les Maliens par rapport à la fragilité des États en Afrique. Et par rapport justement au fondamentalisme marchand et au fondamentalisme religieux qui vient remplacer ça. Donc en France, c'est vrai que nous sommes au Salon Prime Vert, nous sommes plutôt tendance écologiste et décentralisateur et pour tout ce qui est local. Mais en fait, la part de ce qui doit rester à l'État et d'un État réellement utile, quel est-il et comment par rapport à l'identité nous... Enfin voilà, c'est une interrogation pour ça.
Oui, non, vous avez. C'est une question immense. C'est clair que la société, l'État tel qu'il a existé en France au moment vraiment où, au fond, ça s'est cristallisé, c'est-à-dire la Troisième République, avec, j'ai fait allusion à propos de la langue, des excès comme. L'apprentissage obligatoire dans les écoles. Moi, je suis breton, une partie de ma famille est bretonne. Vous avez, certains d'entre vous ont lu Le Cheval d'Orgueil, où il raconte comment, enfant, s'il disait un mot en breton, même dans la cour de récréation, on lui tapait avec une règle sur les doigts. Donc, ça s'est fait. Il y a eu une brutalité dans l'imposition de l'État, mais le bilan est plutôt positif. Simplement, l'État, maintenant, est assis en France, quelque part. Il n'y a plus de contestation sur les frontières françaises, par exemple. L'appartenance à l'État, elle est devenue un fait. J'ai dit sur la langue non plus. Donc il y a des choses qui sont maintenant établies. Et certainement, et vous avez raison, l'État devrait maintenant desserrer son étreinte. C'est plus du tout le même moment que celui où il était. Il avait à se former, il existe, donc il peut au contraire, et ce que font d'autres États, après tout, l'État bismarckien en Allemagne était un État extrêmement autoritaire, mais maintenant vous avez une très grande liberté au niveau des Länder allemands, et ça ne leur nuit pas, et même si vous descendez dans l'organigramme allemand, la liberté locale est nettement plus forte qu'en France, donc là, effectivement, il y a en France, il y a une vaste réforme à opérer, j'avais espéré que la réforme régionale récente s'oriente sur, et c'était, beaucoup d'entre nous pensaient qu'elle s'orienterait sur laisser plus de liberté à l'initiative locale. C'est très peu le cas. On nous a quand même fait du brouillage avec ces histoires de grandes régions, des machins comme ça, quoi. La question n'était pas là. Hein, c'est pas, je pourrais en parler assez longuement. Donc, vous avez raison. Inversement, c'est dangereux que l'État se sépare de certaines prérogatives qui sont vraiment, on dit quelquefois régaliennes, bien que ça soit un mauvais mot, mais notamment concernant la police, concernant la justice, là-dedans, nécessairement, il faut qu'il y ait du moins si on est en France, il faut qu'il y ait un donneur d'ordre qui est qui est l'État. Vous ne pouvez pas, par exemple, imaginer qu'à l'intérieur de la France, on ait des règles différentes, on ait des lois différentes pour la criminalité. Je crois que c'est très, très difficile à imaginer. En plus de ça, il y a, de ce point de vue-là, il y a une certaine liberté des organismes de l'État qui n'est pas une liberté sur une base régionale ou locale, mais qui est une liberté sur une base institutionnelle, les tribunaux, etc. Mais sinon, effectivement, un grand nombre des contraintes qu'exerce l'État, particulièrement même sur des questions fines de territoire, de réglementation sur le territoire, de réglementation sociale. La France est très différente. J'avais publié un atlas des inégalités en France où on voit qu'il y a d'énormes inégalités et on peut pas traiter de la. Maintenant, on peut plus traiter de la même manière ce qui se passe, par exemple, dans des régions qui se portent relativement bien, comme mettons le Choletais. C'est une petite région au nord de la, enfin, au confluent de la Vendée et de l'Anjou. Le taux de chômage est de 6%. Il y a 5% seulement des jeunes qui sont sans diplôme. Donc le niveau de pauvreté, quand on entre dans les 10% de pauvreté, c'est quand même, on tombe à 10% de pauvreté à 1000 euros par mois. Vous pouvez pas traiter ça de la même manière que le Nord ou le Languedoc, où le chômage monte à 14-15%, où les jeunes dans le Languedoc sans formation, ça atteint presque 18%, où le revenu moyen des 10% les plus, le revenu des 10%, à partir du moment où on entre dans les 10% les plus pauvres, dans la région du Languedoc, c'est 450 euros par mois, deux fois moins que dans le Choletais. Donc, là, il y a une nécessité maintenant. L'État ne peut plus, avec des règles égalitaires sur tout le territoire, faire face à tout cela. Et c'est pas simplement la question écologique, c'est la question, carrément la question sociale sur laquelle il doit laisser plus d'initiatives. Les mêmes règles ne peuvent pas valoir pour des situations extraordinairement différentes. Vous savez, c'est le conflit, mais vous le connaissez aussi bien que moi, entre équité et égalité.
Moi, j'avais une question. Vous avez parlé, donc, l'identité, ce n'est pas ceci, ce n'est pas... Hein, et vous avez plusieurs fois parlé de la culture, qui serait une façon de sortir de ce repli, entre guillemets, avec cette notion qui n'a pas sens. Est-ce que vous pourriez dire un peu plus sur qu'est-ce que vous mettez dessous, sur ce mot de culture, qui ouvrirait au monde, qui ouvrirait peut-être à l'identité du monde, quoi?
Alors,
si j'ai bien compris, hein.
Oui, non, vous avez,
cette culture.
Oui,
j'ai pas, est-ce que vous n'avez pas trop parlé,
oui,
sur cette
non,
culture?
Non, j'ai un chapitre entier sur cette question, qui est une question très compliquée dans la mesure où il faut arriver à délimiter le mot culture. C'est un mot qui a une histoire et qui aussi a des différences très grandes selon les pays. Je crois que le pays où c'est le mieux marqué, à nouveau, c'est les pays de langue allemande, où ils ont défini trois niveaux. Il y a trois mots. Il y a un mot qui est civilisation, il y a un mot qui est Kultur, avec un K, et il y a un mot qui est Bildung, qui veut dire formation. Et les grands auteurs allemands, les Humboldt, les Goethe, les Schiller, se sont préoccupés de ces trois mots, et Kant aussi, que j'ai cité, et... Pour un Allemand, la civilisation, c'est l'ensemble des règles de bienséance, on dirait de politesse, si vous voulez. C'est ce qui contraint l'individu. La culture, c'est beaucoup plus largement la manière dont il va organiser sa vie en fonction de tout ce qu'il aura comme apport extérieur. Et la Bildung, c'est alors cette fois-là sa formation en tant que telle. Il y a un très beau travail aussi du sociologue et philosophe Norbert Elias, qui a un de ses livres, d'ailleurs c'était sa thèse, la traduction en français du titre de sa thèse, c'est sur le processus de civilisation. Et il montre bien justement comment la culture, c'est cette ouverture au monde par rapport à civilisation qui est plus une fermeture, qui est plus un enfermement dans des règles, et où il regrette d'ailleurs que le mot Bildung, c'est-à-dire justement le fait qu'on s'engage dans cette culture, ne soit tombé dans une certaine désuétude, et à nouveau qu'il y ait eu au fond une certaine réification de la culture, un très beau roman qu'on appelle des romans de formation de Goethe, c'est les années de formation de Wilhelm Meister. C'est un modèle du genre pour montrer justement comment on devient cultivé. Wilhelm Meister devient cultivé en quittant l'Allemagne pour voyager comme artiste en Italie. Il y a à la fois le côté de l'artiste, des arts qui vous amène à avoir une culture plus large, mais aussi le côté d'entrer dans d'autres sociétés, dans d'autres... Alors le français est mauvais parce que d'autres civilisations, mais justement nos mots sont trop mal définis de ce point de vue-là. Donc j'ai un assez gros chapitre où j'essaye de démêler ces différents liens, et particulièrement aussi en disant un exemple très simple sur quand on cherche à réifier la culture. Je dis, si vous confrontez un Français de maintenant à un Français de l'époque de Louis XIV, il n'y a pratiquement rien en commun du point de vue de la culture, et même un Français des années 1930. Donc quelque part, la culture est sans cesse en mouvement. Elle est justement, il n'y a pas de mot vraiment français, formation n'est pas suffisant. Il y a ce mot allemand, la Bildung, la culture est sans arrêt. Elle ne peut être entretenue que par cette formation et ce contact avec d'autres cultures. Alors l'idée, il y a eu cette idée que les cultures correspondaient à des communautés. C'est une idée qui en fait est venue de l'anthropologie, et en fait d'une anthropologie tout à fait, presque gauchiste. C'est un très grand anthropologue allemand, mais réfugié aux États-Unis, Franz Boas, à qui on doit la notion anthropologique de culture. Et il l'a utilisée, mais pour décrire des très petits groupes. Et il dit bien, dès qu'on sort de ces petits groupes, la notion perd de son sens. C'est des petits groupes qui ont... Parce que ces petits groupes peuvent, et je l'ai dit à un moment donné, à partir du moment où tout le monde se connaît, on peut créer quelque chose en commun qui vous différencie des autres groupes. Mais aucun d'entre nous ne connaît les 65 millions de Français. Donc c'est tout à fait... On est immergé dans un monde culturel très différent. Et en plus de cela, il est très difficile, j'en parle aussi... La culture est liée à des questions d'échelle. Vous avez une culture, mettons, on dira occidentale, puis vous avez une culture, on pourra dire française, et puis on dira, mais il y a une culture bretonne. Mais si on est breton, on dira, oh là là, mais il faut pas confondre, vous avez le pays de Léon, très catholique, qui est en plus de cela... assez égalitaire, et puis vous avez juste à côté le Huelgoat qui au contraire c'est des mécréants, ils étaient communistes pendant longtemps, c'est pas la même culture. Mais si vous êtes dans le pays de Lyon, les types de Roscoff vous diront, mais ça, on ressemble absolument pas au type de Landivisio, ça n'a rien à voir, ni au Brestois. Et à un moment donné, j'ai habité c'était encore un village à côté de Paris, à une vingtaine de kilomètres, qui s'appelle Guyancourt. Et je connaissais bien, j'avais de la famille d'autrefois à Guyancourt, donc je connaissais bien le village. Et un jour, il y avait un village à côté, voisin le Bretonneux. Alors c'est pas Bretonneux parce qu'il y avait des Bretons, c'est Bretonus, Bretonicus, ça veut dire argile. Donc c'est un pays argileux, simplement. Et un voisin le Bretonneux, alors donc je demande un jour au cafetier, qui d'ailleurs était d'origine bretonne, je lui dis, mais ils ont la même fête à voisin. Un voisin est à 2 kilomètres. Ils m'ont dit, ah, mais ils ont pas du tout les mêmes mœurs, un voisin. Et d'ailleurs, un tel qui avait épousé une fille de voisin, ça a pas marché, ils ont divorcé. Hein, c'est... Donc, vous voulez, la notion de culture, c'est quelque part, c'est l'étagement de tous. Il faut comprendre que c'est pas un bloc qui s'appelle la France, ou qui s'appelle la Bretagne, ou qui s'appelle l'Europe. C'est au contraire ces différents étages et les communications entre ces différents étages. On ne peut pas la circonscrire à une ère particulière, de la même manière qu'on ne peut pas dire qu'une personne est de telle et telle culture, sauf très grossièrement, et là encore c'est les anthropologues qui ont des très bonnes intuitions et des très bonnes observations. Dans une partie des pays d'Afrique, ils parlent de sociétés segmentaires, c'est-à-dire des sociétés où on se définit non pas par le groupe exact dans lequel on est, mais par le groupe dans lequel on est par rapport à son interlocuteur. Donc si on est du même clan, on dira « je suis de telle famille » ou « de tel hameau ». Et puis si on est de clan différent, on dira « je suis de tel clan ». Puis si on est d'une ethnie ou une sous-ethnie différente, on dira « je suis de telle sous-ethnie » et ainsi de suite. et on finira par dire, ben voilà, je suis, et ça se termine mal, je suis Nour ou je suis Dinka. Et à partir du moment où on se centre sur un seul groupement, c'est très dangereux, c'est mortifère. Et ce qui se passe justement, l'exemple que je donne, c'est d'ailleurs un très grand anthropologue britannique, Evans Pritchard, qui l'a donné dans son livre sur les Nour. Et vous savez qu'actuellement, ça s'est simplifié au point que on a oublié dans le Sud-Soudan ces différents étages au profit du seul étage supérieur, l'hostilité, qui a conduit à une hostilité entre les Nour et les Dinka. Et là, le narcissisme des petites différences est en train de se transformer en un terrible drame avec des centaines de milliers de tués et avec des millions de personnes mourant de faim dans un des pays les plus riches du monde où on peut faire pousser tout ce qu'on veut. J'ai travaillé pas loin au Tchad. Au sud du Tchad, vous jetez quelques graines derrière votre épaule, ça pousse, hein, et ça pousse pas comme ici, en 6 mois, une saison, ça pousse en 2-3 mois, s'il y a la saison des pluies. Donc, le fait de croire là aussi, même comme l'identité, au fond, de croire qu'on puisse circonscrire des cultures données avec précision est extrêmement dangereux. Il faut toujours penser que la culture, elle est très différente selon les échelles, et on participe à tous les échelles, y compris comme individu, on appartient. Est-ce que je suis parisien? Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis breton? Je suis français. Une fois, j'ai fait une réponse. Je suis français parce que j'ai une carte d'identité française, parce que comme Renan, j'adhère à la France et à l'État français. Voilà pourquoi je suis français. C'est pas parce que j'ai telle taille, tels yeux, telle façon de penser. Dès qu'on entre dans, et au fond, j'aurais peut-être dû dire mieux, dès qu'on entre dans ce type de prévision, de précision, à ce moment-là, on risque d'engendrer de faire revivre l'agression, donc d'engendrer des conduites très fortes d'agression. Et quelque part, je trouve que c'est un très beau livre, le livre de Hobbes, le Léviathan. Hobbes sort, il a vu des guerres civiles épouvantables qu'on a connues en Europe à partir de la Renaissance et jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Et Hobbes en parle en disant, voilà, quand on laisse la liberté à tous complète, c'est, il a une formule qui a souvent été retenue, c'est the war of all against all, la guerre de tous contre tous. Et donc, pour mettre fin à la guerre de tous contre tous, pour installer un état de sécurité, il faut un état fort. Alors Hobbes imagine qu'il y a un pacte égalitaire par lequel tous se mettent d'accord également, dit-il, pour installer, il ne dit pas un état, mais un souverain. Souverain ne veut pas dire forcément un monarque, c'est simplement quelqu'un qui a le pouvoir exécutif. Mais c'est cette nécessité d'éviter le retour de l'agression, je crois, est très importante. Et c'est pour ça aussi que le livre de Freud par lequel j'ai commencé est, je pense, très important. Derrière ce narcissisme des petites différences, c'est l'agression qui se dissimule. C'est donc des conflits, et des conflits de plus en plus meurtriers.
Oui, merci beaucoup pour cet exposé que j'ai trouvé personnellement très intéressant. Vous avez beaucoup parlé de la difficulté qu'il y a à définir l'identité, finalement. Vos réponses sont plutôt négatives sur par thème. Ce que je me demande personnellement maintenant, là, on en parle beaucoup en France. C'est un sujet, un thème qui a été très, très débattu ces dernières années. Vous y participez. Est-ce que nos voisins, ou plus largement dans le monde, se préoccupent autant de ce thème et de ce débat et si vous pouvez nous donner quelques comparaisons sur ce qui se passe ailleurs.
Non, vous avez tout à fait raison. Et malheureusement, ce n'est pas limité à la France. Au contraire, il se passe... vous avez comme moi en tête des exemples. Un des exemples les plus forts dans les semaines qui viennent, c'est les élections aux Pays-Bas avec Geert Wilders, le leader de l'extrême droite, qui ne jure que par l'identité des Pays-Bas. Quand on sait comment justement les Pays-Bas sont un pays, même s'il est plat, sont un pays compliqué du point de vue des populations, des religions, il fait fond là-dessus, et c'est une question plus large parce que c'est pas d'ailleurs une Je pense que c'est pas d'ailleurs une question qui se pose forcément à l'échelle des nations. Vous voyez bien que beaucoup de provinces de nations européennes ou de régions de nations européennes mettent en avant l'identité, l'identité catalane, l'identité basque, l'identité écossaise, l'identité padanienne. Alors, vous savez ce que c'est la Padanie ? C'est la partie de l'Italie qui est au nord du Pô, qui voudrait son indépendance. J'ai vu qu'il y avait une revendication d'indépendance de la Vénétie, qui veut à cause de l'identité vénitienne. Donc c'est devenu le prétexte, c'est pour ça que j'ai signalé, c'est devenu un prétexte à des attaques aussi assez souvent contre l'État. Et quelque part, c'est parce qu'au fond, un certain nombre de fonctions de l'État ne sont plus véritablement assurées. Je pense que ça va, hélas, ça va continuer dans la mesure où, et vous le savez, alors c'est un autre point, l'État a besoin pour marcher, il a besoin d'argent. Et quand on voit ce qui se passe avec les GAFA, avec Google, avec tout ça, qui s'arrange pour ne payer aucun impôt, ou presque, c'est autant de moins pour l'État. Vous avez l'exemple actuellement de Uber. Alors Uber, c'est d'une certaine manière, c'est une idée formidable. Et simple, quelque part. Quand on lit comment ça fonctionne, on se dit, mais c'est bête, quoi. C'est pas... Même un petit programmeur peut mettre au point Uber. Simplement, fallait être le premier, fallait avoir l'idée. Bon. Mais ensuite, une fois qu'on a dit cela, donc c'est les start-up, nanana, la question c'est, ils doivent payer comme les autres l'équivalent de la TVA, l'équivalent des... Et ils le font pas. Ils envoient l'argent en Irlande, puis d'Irlande, je sais pas où, dans les îles Vierges et tout, ils finissent par... Et ça, c'est peut-être choquant, moi, j'ai pas d'attitude morale, c'est choquant peut-être, mais c'est surtout autant de moins pour l'État, donc autant de moins pour le fonctionnement normal d'un État, et ça encourage un ensemble de replis. Alors ceci dit, l'impôt aussi peut encourager au repli. Il y a eu dans l'histoire, alors à très très grande échelle, c'est l'histoire de la fin de Rome. Alors vous savez, la chute de l'Empire romain, comme on dit, ça... Il y a, à mon époque, j'aurais presque écrit un livre sur toutes les explications possibles. Hein, vous savez que vous avez, il y a des explications sur, alors les invasions, bien sûr, on sait que c'est pas du tout ça la cause. Hein, il y avait autant de, et beaucoup plus même de soi-disant barbares installés que d'autres. Il y a une cause même, maintenant, il y a une cause écologique, c'est-à-dire que les Romains utilisaient des tuyaux en plomb pour leur canalisation, et donc, les femmes romaines seraient devenues stériles à force de boire de l'eau qui poussait dans... Il y a un livre sur Ecology in Ancient Civilization qui raconte cela. Il y a peut-être un petit peu de... Je pense que c'est pas la seule raison pour laquelle les Romaines faisaient moins d'enfants, mais bon, ça peut être une raison. Mais une des raisons les plus sérieuses, mais au fond, le plus discutées par les historiens, c'est justement ce renfermement en province de plus en plus locale. Et ce renfermement était en partie lié au fait, et ça nous ramène justement à des problèmes nationaux, au fait que la répartition, l'équilibre, si vous voulez, entre la levée des impôts et ce que touchaient les provinces comme retour des impôts, comme administration, était devenu extraordinairement inégal. Les provinces ne pouvaient plus assumer les fonctions qui revenaient à l'État. L'État s'était dégagé de ses fonctions, les concentrant seulement sur la région sur Rome, sur les panem et circenses, sur la nourriture et le cirque pour les Romains. Et de proche en proche, la désorganisation s'est traduite par une tentative d'autonomie puis d'indépendance de plus en plus grande de l'Aquitaine, de la Septimanie, puis pour citer une région qu'on avait cherché à faire revivre.